Odile avec vous de 17h à 18h. Bienvenue sur Fréquence Mistral 99.3 pour notre émission du mercredi, passionnément vôtre, où je suis ravie d'accueillir en direct un nouvel invité dans un instant. Eh bien, bonjour à tous, si vous nous rejoignez pour cette émission passionnément vôtre, où je suis ravie d'accueillir un nouvel invité. Nous allons découvrir ensemble Kerr Guillaume, qui est un artiste, auteur, compositeur, interprète. Bonjour.
Bonjour Odile.
Alors voilà, je suis heureuse de te présenter à nos auditeurs et puis... Puisque moi, j'ai eu la chance de te rencontrer et de t'entendre sur scène dans le département. Voilà, donc on va mieux te découvrir. Donc, tu viens d'où ?
Je viens de la Bretagne, si c'est ce que tu attendais comme réponse. Oui, je viens de la Bretagne, que j'ai quittée et je vis actuellement dans le Verdon.
Alors, d'habitude, je vous vois tout le temps, mes invités. Je vais essayer de... Je ne sais pas si je reprends le... Qu'est-ce que tu...
Moi, je veux bien que tu me tutoies.
Enfin, ouais,
c'est
bon.
Plus simple, ça va.
Voilà, c'est plus simple. Hein. Et puis, voilà. Tu es tellement sympathique que voilà, ça me vient naturellement. Alors, donc, on va faire connaissance avec toi. Est-ce qu'on commence tout de suite par une de tes chansons ?
On peut envoyer une chanson pour commencer, pourquoi pas ?
Et une qui parle de la Bretagne ?
Eh bien, allons-y alors.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Eh bien, si c'est Montroulez, pourquoi pas ? Donc, oui, Montroulez, le nom de ma ville en breton.
Allez, c'est parti.
De tes bières brunes, tes marins se cognent au cul de tes fios, et pour une bourse qui vibre de quelques thunes, elles astiquent en douce le chibre des jeunes mousses. Quand ces marins s'en vont affronter mille épreuves, Dieu dans sa maison reçoit de jeunes pucelles qui parmi les cierges, les épouses et les veuves font des vœux qui divergent des prières du missel. Montroulez, Morlaix, Montroulez, tu as vécu des heures lubriques dans ta cuvette, guettant le vent celtique, un retour de goélette, puis l'humeur d'une tricorlande crevette, vient perturber l'éthique des sœurs de la Salette, cœur et siffle large et risque, passent aux oubliettes le temps d'une musique, d'une nouvelle conquête. Des poèmes s'écrivent au cri de tout tes abandons et tes chaînes dérivent au bruit de tes vieilles épaves qui errent et qui s'éclatent sur les digues du Don où la muse lève la patte et rue sur les esclaves. Quand le roi de Ségueux a jauni ses amours, que son corps de lépreux mit sa vie en lambeaux, prostitua la bride à la morsure du jour, orgueilleux apatride et fier comme un cabot. Montroulès, Morlaix, Montroulès, tu as vu naître entre tes briques le plus grand des poètes, et tant de rêves épiques de peigneurs de comètes. Quand cette chienne sadique de vie baise et rejette, tu sais rendre lyrique tes trottoirs, tes arêtes et cornes de brume mystique, toutes tes pipes trompettes sonnent l'envol utopique dans la poudre des scampettes, des odeurs d'égout se mêlent aux effluves du large. Et ton goût de l'ardeur s'en mêle aux amarres des bites. Puis s'ouvre ton écluse pour qu'exulte tes barges. Les voiles te laissent recluse quand le vent les habite. Comme tous ces salauds, tous ces marins de l'âme, je me suis jeté à l'eau et j'ai quitté la gueule de ta cuvette rance pour plonger dans les flammes d'une chaleureuse errance loin de toi, vieil aïeul. Montroulès, Morlaix, Montroulès, aux vents océaniques, à la moindre tempête qui ouvre aux hérétiques toutes tes espagnolettes. Goûtant la claque, j'ai mis mes clics au fond de ma musette et couru faire mon Amérique dans de nouvelles couettes, goûtant à chaque cric la tendre silhouette d'un corset qui étrique les seins d'une midinette. Montroulès, Morlaix, Montroulès, tu sais attendre rénantique les crasseuses salopettes de tes amants tragiques qui t'ont pris à la sauvette. Ainsi qu'en las d'être cynique, d'écrire des chansonnettes, quand la bourlingue fera la nique à ma fougue marionnette, quand de mon sterne symbolique j'aurai du guano plein la tête, quand je n'aurai plus qu'une chic au lieu d'une bistouquette. Vieux, vieux comme toi, rustique, je viendrai te compter fleurette, myosotis, fille chic, oh ma fleur d'oubliette. Je prendrai à la lune l'ultime droit de passeport, quittant les rêves qu'une Marie salope drapa, la lumière lavée dans les eaux noires du port, sur le dernier pavé. J'y arrêterai mes pas.
Voilà, vous êtes sur Fréquence Mistral et nous venons d'entendre Ker Guillaume, qui est notre invité aujourd'hui, et un artiste, auteur, compositeur, interprète breton.
Breton.
Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur la naissance de cette chanson qui s'appelle le Montroulaise ?
Montroulaise. Alors effectivement, je suis breton, alors je ne le revendique pas forcément haut et fort puisque je ne le parle pas et je ne suis pas un grand amateur de beurre. En revanche, voilà, j'ai super souvenir là-bas, dans cette ville montroulaise, Morlaix, qui m'a vu naître, grandir et puis la fuir. Et cette petite chanson, je l'ai écrite en pensant à cette chère ville portuaire dans laquelle j'ai grandi, j'ai fait mes premiers pas et où certainement j'irai les finir. Voilà, c'est vrai qu'on a commencé par cette chanson, c'est une chanson longue. C'est plus une petite histoire, c'est, on le découvrira tout au long de cette émission, du coup, avec les choix des chansons qu'on va mettre. J'essaye d'avoir différentes manières d'approche dans mes chansons, celle-ci. Voilà, c'est plus une petite histoire, une petite balade un peu longue, il n'y a pas le petit refrain ritournel. Voilà, c'est une petite histoire et l'histoire de ma petite ville.
Alors, Ker Guillaume, 30 ans Touron.
30 ans Touron.
C'est ça, 30 ans Touron, donc un jeune, encore bien jeune et pourtant une voix sûre, un style de guitare, un jeu de guitare plutôt sûr aussi, un bon jeu de guitare et une belle écriture.
Oui, alors pour le jeu de guitare, merci. Oui. Pour ce qui est d'une voix sûre, je crois que j'ai beaucoup travaillé avec ça, puisque dans le sens que... quand j'ai commencé à chanter, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chansons. Je pouvais faire beaucoup de chansons un peu engagées, colère du Renaud. Je pouvais très bien l'assumer avec une voix d'adolescent, puisqu'il y avait de la colère que j'avais adolescent et que je pouvais assumer ce genre de chansons. En revanche, je me suis rendu compte très vite du frein d'une jeune voix pour chanter des choses qui demandent plus de bagages. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'estime pouvoir commencer à chanter des chansons de Léo Ferré, par exemple. Chose qu'à 20 ans, je pouvais peut-être le faire avec une jolie voix, peut-être, mais pas avec le vécu dans la voix. Parce que je pense que la voix, elle évolue au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Elle prend du bagage, elle prend des coups d'amour et des coups de fouet. Et ça se sent dans la façon d'interpréter. Voilà, et c'est vrai que je cherche à interpréter des textes qui collent avec mon vécu.
Alors, 30 ans Touron, comment est venue l'envie d'écrire les premiers poèmes ?
C'est venu très vite, très très vite. Je pense que j'ai écrit mes premières chansons vers mes 14 ans. J'ai commencé à écrire vers mes 14 ans. D'une part parce que j'ai eu la chance d'avoir été mis à des ateliers théâtre gamin. Et c'est une passion qui m'est venue très rapidement. Et vers 14 ans, j'habitais dans un petit village où il y avait une petite association engagée dans l'éducation populaire et dans laquelle j'ai proposé de faire des ateliers de théâtre avec mon petit niveau et on m'a laissé le faire. Et c'est une expérience qui m'a amené, je pense, à écrire parce que j'ai commencé à écrire des petits textes avec les petits jeunes que je recevais.
Qu'est-ce qu'on écrit à l'âge de 14 ans ?
Qu'est-ce qu'on écrit à l'âge de 14 ans ? Au niveau de la chanson, je dirais que c'était très, très simpliste. En revanche, j'ai commencé à écrire des poèmes à cet âge-là et j'étais plutôt matheux à cette époque que littéraire, je pense. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et je trouvais que la mathématique de la poésie m'attirait, voilà, tout ce qui était le sonnet, la structure poétique en fait, de demande une gymnastique assez mathématique. Et je trouvais ça intéressant de mêler les mots avec ça. Donc oui, j'ai commencé à écrire mes premiers sonnets vers 15-16 ans.
Donc en calculant le nombre de syllabes de...
Oui, tout à fait.
Des ateliers d'écriture après ou...
Des ateliers d'écriture par la suite, oui.
Ouais.
Donc, oui, au niveau de l'animation, oui, beaucoup de l'animation après. Oui, des ateliers d'écriture, ateliers théâtre. Donc, théâtre, c'est aussi monter son propre texte. C'est aussi mettre des mots en gestuel. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais attiré par le théâtre sans mots, avec ce chorégraphié, on va dire. Et voilà, donc après, atelier écriture, oui.
Et la guitare, à quel moment ? À quel moment
C'est venu à cette période-là aussi. J'avais un copain, un voisin qui faisait de la guitare, et puis moi j'avais souvent la petite chanson à fredonner. Et on s'est dit, tiens, nos parents se connaissaient bien, ils faisaient souvent des soirées ensemble, entre autres des soirées anniversaires. Et on s'est dit, tiens, on va faire une chanson pour cet anniversaire-là, pour telle personne. Et du coup, on a commencé à chanter comme ça. Et lui, il avait sa guitare, et puis il m'a appris les deux, trois premiers accords, et puis ça me donnait envie de continuer.
Et alors, quels étaient à l'époque les artistes qui auraient pu te donner envie de chanter ? Est-ce qu'il y a eu un révélateur ?
À l'époque... Oui, je pense que du coup, à cet âge-là, Renaud dans la chanson était bienvenu. Ensuite, il y a eu Ischlin qui arrivait très vite. Mmh. Et je pense qu'avec Ischlin, il y avait une autre idée de la chanson, puisque je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment pris des risques à chaque album. Il nous a toujours surpris. Et ça, je trouve formidable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui commencent, qui sont extraordinaires. Ils font un deuxième album qui est bon et un troisième qui est encore la même chose.
Et
je trouve ça d'une tristesse. Et j'aime les artistes qui prennent des risques. Mmh. Là, on fait partie. Puisque j'ai choisi aussi d'écouter pendant cette émission des chansons qui ne sont pas de moi, on écoutera tout à l'heure une chanson de Nougaro, qui pour moi aussi est un artiste qui a pris énormément de risques.
Qui joue merveilleusement avec les mots aussi.
Oh là là là, c'est extraordinaire.
Ouais. Quand le texte sonne à lui-même, des fois, c'est vrai qu'on se dit que ça aurait presque pas besoin de musique, quoi, tellement c'est musical.
Oui, tout à fait. Ouais. En revanche, avec Nougaro, c'est un ensemble merveilleux entre ses mots, lui, son interprétation formidable, et puis les musiciens avec qui il a su s'entourer, qui sont extraordinaires.
Oui. Donc, 14 ans, on commence à écrire. Tu commences à écrire.
Oui.
Et tu chantes, tu commences à chanter, à te produire à quel âge devant un public et quel public ?
Alors, la première fois que je chantais devant un public, c'est une histoire que je m'en rappellerai toujours, puisque j'ai commencé, tout gamin, à cet âge-là, à faire un petit peu de scène avec le théâtre, puisque j'étais inscrit dans des ateliers théâtre. Mais quand j'ai commencé le théâtre, on m'a mis à des cours de théâtre je vais avoir 10 ans, et j'avais pas peur. C'était amusant pour moi. Et quand je montais sur scène, je m'amusais. Mmh. Et puis un jour, je fais un spectacle dans lequel on m'a proposé de mettre mes toutes premières chansons. Et là, j'ai eu peur.
Ah oui.
J'ai eu un trac phénoménal avant de monter sur la scène, tout simplement parce que c'était des textes à moi. Et cette peur, en fait, ça a été une évolution. C'était un choc vis-à-vis de mon apport sur scène, finalement, puisque ou de ma façon d'appréhender les textes, puisque avant je m'amusais. Aujourd'hui, je déclare quelque chose qui est plus profond sous la peau.
Est-ce qu'on écoute un petit moment, Claude Nougaro?
Oui, on peut écouter Claude Nougaro. Ouais.
Alors, si je retrouve, je vais retrouver tout de suite la piste.
Ouais, c'est...
Et on va déjà dire le titre, c'est Ma cheminée.
Cheminée est un théâtre.
Un théâtre, et on l'écoute tout de suite, Claude Nougaro.
« Ma cheminée est un théâtre où l'on ne joue qu'un seul auteur, le feu. J'ai pris ma place devant l'âtre, c'est un spectacle pour les vieux. J'adore me régaler de flammes, j'ai pris assez de bûches pour ça. C'est mon harem de jeune femme, mon corps de ballet d'opéra. J'ai pris ma place devant l'âtre, ma cheminée est un théâtre. Regardez-les, les chaudes gamines, batifolées à qui mieux mieux. Je leur sers des serments de vigne, ça leur fait dresser les cheveux. C'est bien le moins que je leur dois, elles m'ont assez brûlé les doigts. Je deviens le metteur en scène de ces flamencos fastueux, parfois lascifs, jamais obscènes, que je me perds à petit feu. Le feu raconte des histoires, illuminant la nuit des temps. Je connais tout le répertoire de ce génie incandescent. Le feu est un vieux compagnon, le plus ancien des Minitel. Le cinéma de Cro-Magnon et la télé de Tocqueville. Me voici parmi mes aïeux, fauteuil d'orchestre au coin du feu. Ma cheminée est un théâtre, un vrai théâtre rouge et or. Pour vous plaire, il se met en quatre, brûle les planches et les décors. Mais quoi, j'ai dû fermer les yeux dans le bois de trousse cerise. Le festin s'éteint peu à peu, de mon théâtre ne reste que des presses dans la poudre grise. Des presses dans la poudre grise. L'homme et la flamme savent s'entendre, ils se ressemblent en tous deux. Dresseurs de feu, laisseurs de cendres, feu le feu. Feu le feu.
Retrouve notre invité Kerguelhomme qui nous a fait donc le plaisir d'écouter Claude Nougaro.
Oui, Claude Nougaro. Alors c'est très délicat de choisir une chanson de Claude Nougaro puisque je voulais proposer du Nougaro, mais comme je les adore toutes, j'ai choisi celle-ci parce que c'est dans ses dernières chansons et j'ai souvenir d'avoir vu Nougaro en concert dans ses derniers concerts avant qu'il ne meure. Et c'est une énergie incroyable qui se dégage de ce grand monsieur. Et pourtant, quand on le voit arriver sur scène, on voit un petit gars clopin-clopin. Mais voilà, il y a une énergie. Et en fait, voilà, c'est dans ses dernières chansons et cette énergie, elle a toujours été là avec lui. De ses débuts jusqu'à la fin, en fait. Il est mort dans l'énergie.
Pour en revenir à tes chansons, donc tu as commencé à chanter tes propres chansons assez jeune et tu me dis que tu as beaucoup chanté dans la rue.
Oui.
Tu t'es frotté à la rue,
ah, oui.
Ce qui était une école difficile.
Bonne question. Non, je crois pas que ce soit une école difficile.
En tout cas, quand on a le trac, la rue, ça peut l'enlever parce qu'on est quand même, on a envie que les gens s'arrêtent et.
Oui, on a envie que les gens s'arrêtent. Alors, je pense que ça développe un style de voix peut-être, puisque comme j'ai, oui, c'est J'ai peut-être pris tendance à chanter fort, voire à brailler à certains moments pour me faire entendre. voilà, en revanche, il y a de ces moments magiques où les gens peuvent s'arrêter, capter par quelques mots, une mélodie, et pendant juste l'espace d'une chanson, il y a un échange par un regard, un sourire. Et je trouve ça m'est arrivé une fois, et ça c'est un grand souvenir, à Budapest. J'ai joué à Budapest et il y a une dame qui s'est arrêtée, qui a voulu me parler, et je lui ai fait comprendre en anglais que je comprenais rien. Et elle m'a regardé, et comme elle avait rien à dire, elle a pris mon visage avec ses mains et elle m'a fait un gros bisou sur le front. Et ça, c'est des contacts qui sont dans la rue.
Incroyable,
c'est ouais. Génial, c'est un bon souvenir.
Voilà. Ah
oui. Puis après, c'est vrai que c'est drôle, puisque dans la rue, oui, on peut jouer sur les marchés, puis attirer tout genre de personnes, croiser tout genre de personnes. Ça m'est arrivé aussi de jouer un dimanche et de voir beaucoup de personnes âgées sortant de la messe et s'arrêtant et discutant avec moi. Donc il y a plein d'opportunités voilà.
Alors l'écriture, quelles sont les choses qui t'inspirent dans l'écriture? Comment tu écris?
Comment j'écris? En vérité, c'est dur d'écrire. En vérité, c'est dur. Et je pense que j'ai peu écrit. J'ai peu écrit, c'est sûr. En revanche, j'ai beaucoup clamé des textes qui n'étaient pas de moi, que je prenais sous la peau, et puis improviser aussi. C'était quelque part, à un moment donné, c'était moins dur d'improviser, puisque je créais avec un échange. Je me mettais dans une dynamique qui faisait couler des mots du cerveau directement à la bouche. Or, face à un papier, je me triture beaucoup plus la tête.
Ce que tu m'expliquais au début, c'est que, les chansons et les textes, les poèmes sont sur papier depuis peu de temps.
Oui.
Au départ, c'était uniquement dans la tête et le cœur.
Tout à fait, puisque en vérité, je pense qu'un poème, c'est un éclair, un instant bref. C'est un peu pareil pour la chanson. En fait, j'ai écrit des chansons des moments que j'aimais chanter, d'autres que je n'ai chanté que deux fois. Au moment où je les ai faites, je les ai assumées pendant une semaine, et après je les ai plus assumées du tout. Il y a quelques chansons aujourd'hui que j'assume toujours et que je suis content de chanter, mais elles sont très rares. Donc voilà, oui, j'arrive aujourd'hui à 30 ans, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais ça, mais j'ai pas encore démarché vraiment, puisque il n'y a que peu de temps effectivement que j'ai mis mes chansons sur une maquette qui n'est pas encore commercialisable de toute façon. Et même pour mes poèmes, je me suis dit, allez, essaye de récupérer des vieux chiffons. J'ai récupéré des vieux torchons de mots avec la que
des torchons de mots.
Oui. Mais je oui, parce que un poème, ça, au moment où je l'écris, c'est pour essuyer de la colère, de la tristesse.
Oui, alors justement, c'est la révolte. Tu me disais la première fois que je t'ai rencontré qu'on se devait d'avoir tous un quart d'heure de révolte par jour.
Oui, je crois qu'on devrait s'autoriser un quart d'heure à la contestation par jour. Oui, parce que ça fait...
Il y en a qui râlent toute la journée, tu le sais, ça.
Oui, mais quand je dis ça, c'est aussi s'opposer, et puis on peut... la contestation, j'ai beaucoup de contestation envers moi-même aussi. Mm-hmm. Je réfléchis quotidiennement à la façon dont j'agis aussi au sein de tout ce qui m'entoure. Après, oui, il y a des fois je râle, mais après, je me repose aussi, puis j'essaye de voir si c'est pas de moi que vient le problème.
Pour toi, il est important de crier sa révolte ou de chanter sa révolte?
Pour moi, il est important de faire sortir un son. Si vous avez un besoin d'exulter, rien n'empêche de simplement crier, se poser dans un coin ou aller se cacher et crier. Ça fait du bien, ça essouffle. Au théâtre, c'est quelque chose que j'aime à travailler. C'est le cri. C'est très, très difficile de crier.
Alors, dans tes chansons, tu dénonces des choses qui te révoltent. Qu'est-ce que c'est?
Mais oui, oui, en fait.
Quelles sont les choses qui révoltent Pierre Guillaume?
Quelles sont les choses qui me révoltent? Si je dis l'injustice, c'est très, très, très vaste. J'ai plutôt répondre en bifurquant, en disant ce qui m'a amené vraiment, moi, à la révolte, c'est une incompréhension. C'est une grosse incompréhension. Et c'est une... je me suis rendu compte qu'on nous cachait des choses. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, je me suis rendu compte que l'époque où j'étais né, quand je suis né, le mur de Berlin, il était encore là. Mmh. Et ça, j'en ai pris conscience. Je suis né, bien après qu'il soit tombé. Parce que j'étais trop jeune par rapport à ça. En revanche, tous ces pays de l'Est qui étaient en train de surmonter un passé, et puis j'avais 20 ans quand c'était la guerre en ex-Yougoslavie, quoi. Et ça a été un choc, en fait, de me dire que j'avais été ultra protégé, ultra couvé dans une bulle, et que le monde, en fait, je le voyais pas, alors que c'était juste à côté. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de bouger. Je parlais de Budapest tout à l'heure, parce que du coup j'ai une partie de ma vie où j'ai beaucoup marché et été dans erré aussi. J'ai besoin d'aller dans ces pays-là pour dire je sais ce qui se passe.
C'est important de dire de communiquer sur sur les événements.
Tout à fait. Ah oui. Et c'est vrai que on a tendance à oublier énormément, et il faut, parce que sinon on n'évolue pas. Je veux dire, si je devais ressasser toutes les mauvaises nouvelles que je lis dans le journal le matin, je passerais tout le temps des mauvaises journées. Donc on est obligé d'oublier ces nouvelles là pour rire un peu.
est-ce que tu voudrais nous lire un de tes poèmes?
Allez, pourquoi pas. À respirer, d'ailleurs, c'est un texte que j'ai écrit à Prague.
On t'écoute.
À respirer. Venceslas, hélas, le velours craque et pète dans la soie. Bien fou s'en fout, le sang coagule et bombe les murs. Un unijambiste parie à Vientiane, la hosse y demeure. La Pinochet de Saddam trouvera d'autres pays à ébranler. Dans les synagogues, les synapses détruisent le nerf des nefs, croix gommée. Mais à Alger, peut-être, des oranges naissent dans les oliviers, et à Santiago, les poètes meurent vieux. Le figuier a-t-il donné cette année? En Corée du Nord, un homme a franchi la frontière, après 30 jours cadavériques, alors que les naissances se contrôlent et se doublent au milieu du Pacifique. Et pourtant... De Casablanca à Madrid, la glace fond sous le pas des danseurs et le désert de Sibérie s'aride d'illusions. De Londres à Odessa, plus de manches aux bras de fer. Des Bermudes à Utopia, la mer continue son vient et va. Malgré la révolte qui s'accroît, on cherche des casottes en Ariège et Katmandou de nouveau devient idylle. Impuissant et excité, crachat de sang, de pleurs et de jouissance, des entrailles de la mère et du déracinement du père, baiseur de vie adorant, ses tout petits seins blancs et sa salive abondante. Mon nez saigne à respirer sous les barbelés les premières fleurs de mon verger.
C'est magnifique. C'est un poème que tu as écrit quand? Un texte que tu as écrit quand?
Ça remonte, puisque une période où j'étais à Prague, j'avais 20 ans.
Eh bien, bravo. Un autre?
Pourquoi pas rester plus dans ce qui... Parce que je parlais tout à l'heure de la construction de mathématiques. Là, c'est, en l'occurrence, c'était de la prose. Je continue peut-être avec un petit peu de prose. Puis on fera... Je sais pas.
Après on fera une...
Une session sonnée après.
Oui.
Ouais, ça marche. Calme, volupté, au seul luxe d'être. Dans le désert poussent des pianos, sur lesquels les mains invisibles des êtres aimés et lointains jouent les prémices de nos retrouvailles. Le rythme des mains du peuple errant dans ma solitude accompagne la mélodie du vent, compagnon alors le plus palpable, qui ravive la mélancolie. Près de l'oasis d'espérance, un violon fruité, né de l'olivier, vibre de l'essence de ma vie. Il est l'huile essentielle au archet de mes errances. Du bout des doigts, que ce soit baguette de musicien ou bâton de pèlerin, par cette douce mélancolie qui apaise et rend serein, je tiens le crin de mes pensées, la queue de mes désirs, qui atteignent les différents horizons de ma mémoire et rejoignent le sable à chacun de mes pas. Dans le désert s'écrivent des lettres qui trouveront porteur et resteront enfouies sous la fraîcheur de l'olivier. Il est des champs qui restent à la terre et germent en un bouquet superbe ou en coquelicot éphémère, alors que d'autres suivent les tribulations des oiseaux migrateurs. Carnivore plantigrade, je dévore les cultures où je n'enracine qu'un orteil. Du reste, à mon oreille, le violon trop mûr tombe de sa branche, la musique parfois de trop lourde tonalité, et l'archet alors glisse sur mon corps. Violoncelle qui sonde la vie d'autre monde. Entends-tu la rivière ? Oui, celle qui coule du violoncelle, sortant de mes pénates en une jolie sonate, qui coule dans la chair de la terre-mère porteuse de mes chimères coureuses. Je repars demain, pianiste à bretelles, vers de nouveaux jardins aux violons éternels, et vous tiens par la main malgré mes pieds rebelles. Sonate du destin, la route m'appelle, confiance, point de chagrin, je suis violoncelle.
Merci. J'en reste sans voix, c'est embêtant pour la radio, mais...
Bon. Donc voilà, c'était un petit, c'est un petit choix, c'est vrai que ça c'est un petit poème qui décrit une façon dont j'étais dans... Puisque quand dans ma façon de dans la façon dont j'ai voyagé à cette période, j'ai beaucoup marché en vérité. J'ai voulu prendre le temps et c'est vrai que je suis parti plusieurs mois à plusieurs reprises pour marcher, traverser telle ou telle contrée et prendre le temps. Et c'est vrai que c'est une démarche qui fait relativiser la colère dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. puisqu'il y a une communication avec le lieu qui s'établit par le corps, en fait. D'être en mouvement dans un lieu. Et marche. Voilà. J'avais un peu de mal à l'exprimer. Ouais. je continue, du coup
C'est comme tu veux. C'est comme tu veux.
Bon, allez, je fais quelques sonnets. Donc, mes tout premiers sonnets, là j'en ai deux là, donc une époque de 15-16 ans quoi, quand je les ai écrits. L'eau, berge de mes rêves noirs, l'imagination, que ma folie, sans trêve, engendre avec passion. Lutin, elfe, enchanteur, à ma table émerge. Magie avec lenteur, tout s'anime dans l'auberge. L'eau, range et échange tous les espoirs et les cris d'un insolite archange contre ma vie ravie. Sorcières et farfadets, sur mon arbre s'arrangent, violence à l'entremets, le dessert est orange. L'eau rage ses efforts, tous, inutiles peut-être. Les candeurs lui font tort, jamais ne serait maître de ces fantômes sirènes. Sur mon bateau m'enivre, chahutant chaque reine, vague à la dérive. Oh, souveraine, donne ta folie aux sages, je garderai la mienne comme éternel orage.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral et on a la joie d'écouter Ker Guillaume, auteur, compositeur, interprète, dans des poèmes écrits donc très jeune celui-ci.
Oui, très jeune celui-ci. Oui. Mais oui, c'était ça, 15 ans.
On sent le côté théâtral aussi. Hein,
dans ma façon de lire. Oui,
c'est très agréable de savoir aussi lire ses poèmes, c'est sûr. On en écoute un dernier et puis on passera à la musique.
Allez. Alors, Partir. Mieux rester dans son désordre. Partir. Quêter dans les ailleurs, les bas-fonds, les frontières, les restes de son lest, les traces de son hier. S'envoler dans l'ivresse, du manque et du mentir. Mentir. Mieux s'avouer son désordre. Mentir. Paraisser dans le vide, à un trou dans la lumière qui crève le chapeau, l'écho d'une prière au désert silencieux qui finit de rôtir. Je brûle, mon cœur, ma sœur. Ne vois-tu rien venir? Derrière le ciel immonde, le soleil qui merdoie, l'ironie et son rire qui nous montrent du doigt. Fleurs de myosotis et regrets s'entrelacent, pleines de ma tendresse, lourdes comme un menhir, ma besace est restée chez toi. Veux-tu? Je passe.
Merci. On va écouter Agnès Bill pour faire une pause musicale. Pour, c'est vrai que c'est, on a envie de laisser le silence, la résonance des mots, un peu comme quand on entend les polyphonies corses ou quoi. On a envie que ça continue à résonner. C'est toujours difficile d'applaudir ou de parler juste après. On écoute Agnès Bill.
Avec grand plaisir.
Donc, tu as choisi, et oui. Tu as choisi, bien sûr, merci maman,
merci papa.
À bon port, Léo.
Une petite erreur, c'est juste l'autre CD, c'est tout de suite. On y est.
Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent la langue. C'est bien. C'est rien. C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile. C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile. C'est bien. Et on génocide au soleil à la faute à qui on savait pas. Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de Nuit et Brouillard. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants du tiers-monde. Et si le progrès se fait la course, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Quand la mort est cotée en bourse, c'est bien. La médecine fait des pas de géant et le sida recule en bloc. Seulement les poules auront des dents avant que l'Afrique ait des médocs. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Ça régule les natalités. C'est plus de faim qu'ils vont crever. C'est bien. C'est rien. C'est bien les gamins de la guerre. Un pendu 10 de réprouvé. C'est rien que des gamins militaires. Tirera bien qui tirera le dernier. C'est bien. On fabrique des tueurs à la chaîne. Jouer aux petits soldats de 10 ans. Et puisque l'horreur est humaine, la guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. On laisse un gosse, on viole sa mère. On file des armes à son petit frère. C'est bien. C'est rien. C'est bien des mômes, c'est des forçats. Du fond des mines, c'est des bagnards. C'est rien que des mômes qu'on forcera à se prostituer pour 3 $. La saloperie se dépayse. Pédophilie ou exotisme au moins. Ça rapporte des devises, sexuelles ou pas. C'est du tourisme. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants de l'inceste. C'est rien que les enfants du mépris. Y'a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste. C'est plus que les enfants du gâchis. C'est bien. Et l'enfant dodo, l'enfant morte, celle que j'ai t'aimée, pourquoi faire? Dont l'enfant donne ce que je porte moi. C'est l'enfance de la ses noms.
C'était Agnès Bill. Merci Agnès papa. Bill. Merci maman. Je disais tout à l'heure qu'elle était passée à Manosque il y a pas longtemps. Voilà, elle manie bien les mots aussi.
Elle manie très très bien les mots et oui, elle a fait de très beaux albums avec beaucoup de poésie, beaucoup de. Elle a des très bons coups de gueule aussi. Agnès Bill.
Tu connais Alain Leprest aussi?
Oui.
Oui. Alors, on parlait hors antenne des poètes qui auraient pu enfin, te séduire et t'amener aussi sur ce sentier-là. Quels sont les poètes qui t'ont marqué ou qui continuent de te...
Les poètes qui ont marqué. Je pense découvrir la poésie dans un vieux livre de Verlaine qui traînait derrière une étagère. Et oui, puis j'avais accroché à ça, et puis par la suite, je me suis un peu intéressé. Et il y avait j'ai eu l'occasion de lire des phrases très très intéressantes de René Char, et du coup d'essayer de m'intéresser à sa poésie. Par la suite, j'ai découvert Tristan Corbière. Tristan Corbière est morlésien, enfin était, pardon. il est de la ville qui m'a vu naître, grandir et la fuir. D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans la chanson qu'on a écoutée au début.
Morlaise, oui.
Le fameux poète lépreux, c'est lui. Oui, ça m'a. C'est quelqu'un qui m'a. Un poète qui m'a bouleversé par son errance et sa solitude dans la façon dont il l'écrit. Voilà.
Donc Verlaine et puis Christian Corbière.
Tristan.
Tristan, pardon.
Tristan Corbière, oui. Oui, oui. Il y a. Un poète que j'aime beaucoup, qui a peu écrit, mais que je trouve génial, c'est Georges Forest aussi, qui est très peu connu malheureusement, mais qui a beaucoup, beaucoup d'humour. Donc voilà. Et ensuite, donc ça c'est pour les poètes, mais après il y a des chanteurs et des jeunes chanteurs. Agnès Bill, j'ai découvert avec son tout premier album. Mm-hmm. Parce que j'aime bien aller... flâner, me dire tiens je vais acheter un disque de quelqu'un que je connais pas, puis je passe plusieurs minutes voire plusieurs heures à regarder les disques, et puis tiens Agnès Bill, on va voir ce que c'est. Et ça a été une belle révélation quand je l'ai entendu. Et ça c'est oui, des gens qui m'ont porté au niveau des mots, pour rester sur des jeunes auteurs. Je pense à Jérémy Bosson qui essaye de qui commence à marcher un peu. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Un qui m'a bouleversé énormément, faut que j'en parle.
Oui, ah ben oui.
Mathieu Côte. Mathieu Côte, pour moi, ça a été un grand coup de choc. Il a sorti un disque qui est monstrueux. Malheureusement, ce gars, il a sorti son album à 28 ans et est décédé peu de temps après avoir sorti son disque et n'a pas pu le défendre. Et c'est bien triste. Mmh. Et donc voilà, il y a plein de jeunes auteurs que j'adore, puisque je me retrouve aussi dans leurs mots d'aujourd'hui. Mmh. Je me retrouve pas que dans les mots de Verlaine. Mmh.
Je n'ai pas parlé de ton parcours professionnel, mais on peut peut-être en dire quelques mots. Tu es dans l'environnement, en fait, dans l'environnement.
Oui, je suis dans l'environnement. Après, c'est très large. Je suis animateur. Je travaille avec les enfants sur des projets socioculturels ou plus particulièrement sur l'environnement. Je fais des animations environnement. Découverte faune, flore, les thématiques de l'eau, la gestion des déchets, tout ça. Mais dans tout ce que je fais en animation ou même en geste quotidien, de toute façon, j'ai une réflexion sur l'écologie et les gestes en lien avec la protection de l'environnement. Donc, dans mes animations, quelles qu'elles soient, de toute façon, il y a une idée de défense de l'environnement dedans. Voilà, après, dans mon travail, ça peut même simplement être dans les structures dans lesquelles je peux passer et essayer de faire en sorte que la structure limite ses consommations énergétiques, fasse du tri sélectif. Oui, oui. Et, euh, Et j'aimerais, c'est vrai que en tant qu'animateur éducateur à l'environnement, j'aimerais par la suite, là c'est vrai que je suis en totale réflexion sur mon avenir professionnel par rapport à ça, surtout au niveau de la nourriture, puisque ça commence à être difficile pour moi de partir en séjour avec des enfants sans avoir la main mise sur ce qu'ils mangent. Ouais. Et je suis horrifié de ce qu'on met dans les assiettes de nos enfants. Et je me dis, quand je les amène en séjour dans des endroits où moi je fais des animations nature et qu'on leur fait manger de la merde, je me dis que je leur manque de respect à ces enfants. Et voilà, j'ai envie d'axer plus mes réflexions sur ma façon d'agir là-dessus, là maintenant. Ouais. Ouais, je fais... ouais, c'est très difficile, parce que c'est...
Il y a un petit peu de progrès qui se fait en ce moment par rapport justement aux écoles, notamment dans la région. Je crois qu'il y a à Pierre-Vert, il y a une cantine scolaire où ils mangent des produits bio. Donc il y a des progrès. Et puis on essaye de les initier aux différents goûts des légumes. On leur montre. Il y a certaines écoles où il y a des journées. Dégustation entre guillemets avec des cuisiniers qui vont leur apprendre à apprécier un légume cuisiné d'une certaine façon.
Tout à fait.
C'est bien d'éduquer le goût très tôt, quoi.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Il y a encore beaucoup à faire, mais bon, peut-être que avec des gens intègres.
Oui, et puis il y en a, et puis c'est vrai, hein, comme tu dis, ça se développe beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui œuvrent pour ces questions-là, et c'est vrai que. Au niveau de la nourriture, par contre, c'est vrai que je voulais dire que c'était un peu difficile. Et d'ailleurs, tous les végétariens peut-être le savent. Moi, j'ai pris le parti pris de ne plus manger de chair animale dont je ne connais pas la traçabilité. Mmh. Et voilà. Et je veux savoir qu'elle a été caressée par son éleveur. Quoi.
D'accord.
Sauf si c'est un poisson, bien évidemment. Mais je dis chair animale, pourquoi? Tout simplement parce que quand on dit aux gens qu'on ne mange pas de viande, on se voit proposer du poisson. Or,
d'accord.
Poisson, c'est de la viande. Ouais. Et pour moi, la pêche, j'adore, je suis breton. Mmh. C'est un gros désastre écologique. Mmh. Malheureux. Et on détruit des fonds marins, on détruit des dizaines d'espèces. Et puis quand on pêche en grand, on pêche des poissons qui ne servent à rien, mais on n'en fait rien et on les laisse à l'agonie. On va empiéter sur des territoires où il y a des peuples qui vivent de trois poissons pêchés à la journée, et puis nous, on vient avec leur chalut. Donc c'est très large, et c'est vrai que ouais, c'est des questions dans lesquelles j'essaye d'agir.
Alors, est-ce qu'il y a des chansons qui parlent, qui pourraient raconter ça?
Qui racontent, oui, pas sur la nourriture, non. Mm-hmm. Enfin, j'ai une chanson qui peut s'apparenter à un apport sur une question écolo, si on veut. Oui, une chanson, l'amour radioactif.
Est-ce
qu'on peut l'écouter?
Est-ce qu'on peut l'écouter? J'ai le droit de la mettre.
Avec
je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, celle-ci aussi.
On faisait pousser du cannabis pour emmerder Philippe Maurice. On buvait que des alcools locaux pour ne pas engraisser Pernod. Puis on a planté des courgettes pour ne plus foutre un pied aux marquettes. Les mecs grimpaient sur les clôtures, on pouvait faire nos confitures. On était fiers de nos tomates. Et sur la parcelle des patates, on pouvait lire sur une banderole: on ne veut plus de votre pétrole. On était écolo à mort, y avait du bio dans nos corps. Entendez, on partait en guerre contre les centrales nucléaires. Et pourtant, on irradiait. Pourtant, on irradiait.
même quand on faisait des galipettes, qu'on entrecroisait nos gambettes. Ton corps s'ouvrait, ça faisait fission, puis explosait. Mon champignon, nous vivions d'amour et d'ardeur, d'eau fraîche pour nos réacteurs. Sur notre nuage radioactif, nous nous croyions inoffensifs, tant notre passion était offerte. Le nucléaire, énergie verte, prenait alors tout son sens dans nos incandescences. Puis le nuage est devenu gris quand la récolte des radis a terminé dans la poubelle après un orage de grêle. Je m'attendais que tu ripostes, t'aurais dû mettre dans le compost. Mais ensemble on a confirmé que le temps était détraqué. Notre amour n'a pas survécu et ensemble on ne cultive plus. Mais on se croise toujours au manif pour un monde alternatif. Et t'es si belle dans tes élans lorsque tu brailles tes slogans. Y'a que des cons au ministère, à mort le nucléaire. Et pourtant, on irradiait. Pourtant, on irradiait. On a déplacé tant de minerais, de passion que les déchets coulent jusqu'aux pommes de terre et se déversent dans la rivière. Mais l'eau n'en est pas moins belle, en regorgeant de becquerelles. Les amoureux s'y baignent toujours, brassant ainsi dans notre amour. Puis les voici contaminés, ils auraient dû se protéger, on le sait, contre l'uranium. Il suffit de mettre un condom. Alors pour oublier ta chair, j'ai creusé jusqu'à la roche mère 2000 mètres de forage pour y enterrer ton image. Je pensais ne plus te revoir, de t'avoir mis dans ce trou noir. Mais t'as rejailli sur un site d'extraction de gaz de schiste. Puis j'ai connu d'autres femmes, et ce fut bien là mon drame. Car ma fougue au creux de leur lit, c'était de l'uranium appauvri. Mais ça fait autant de dégâts. Je criais ton nom dans leurs bras et je jouissais plein de colère, en gueulant merde nucléaire. Et pourtant, on irradiait. T'en souviens-tu? Pourtant, ce qu'on irradiait. Quand je repense à nos ébats, je me gosse d'Hiroshima. Je t'imagine qui gesticule. Tchernobyl est ridicule. Nous avons tellement émané que sur des chars contaminés, dans le fin fond de l'Iran, s'y amusent des enfants. Ils oublient ainsi dans leur jeu que s'il y a plusieurs dieux, la vie du Bing Bang jusqu'à l'homme s'est bâtie sur un seul atome. Puis t'es revenu un matin, je t'ai aperçu dans le jardin. Le monde d'un coup s'est reconstruit. Bonne saison pour les radis. Et tu m'as dit faisons la paix, comme dans la chanson le traînait. J'ai répondu viens mon loukoum, écoute mon cœur qui fait boum.
Voilà, c'était L'amour radioactif, une chanson écrite et composée et interprétée par Kerguilhom, notre invité d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui, oui, c'est moi qui ai fait cette chanson.
Eh bien, bravo, encore une fois. Alors, on refaisait un petit peu le monde avec les constats de l'alimentation. On parlait de l'alimentation. Et donc, je te demandais si tu avais un jardin, bien sûr.
Oui, 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 je mange mes carottes. Ah, ça, c'est important. Puis... Et puis, j'adore, enfin, ça fait du bien, je trouve, travailler à la terre, en plus de ça.
Alors, quelles sont les solutions pour ne pas avoir des limaces? Est-ce que toi, tu mets un panneau interdit aux limaces?
Non, je ne mets pas interdit aux limaces. Parce que j'ai pas, il paraît qu'elles sont un peu myopes et je n'ai pas de lunettes à limaces. D'ailleurs, je n'ai pas de produit anti-limaces, d'ailleurs. Non, il y a des... On peut mettre différentes... Il y a des plantes qu'on peut mettre pour...
Voilà,
pour
ça s'apprend. Ça s'apprend. Hein, il faut étudier vraiment comment... Quel légume va à côté de... Oui. Et puis, j'avais appris par Christelle Ferré, qui s'occupe de jardiner au naturel, la Digne, qui a une belle association à fleurs de pierre, mm-hmm. et qui explique justement... quand on plante des fleurs de souci entre chaque rangée de... Enfin, voilà, il y a des moyens quoi hein, d'éloigner certains insectes certains
tout à fait oui tout à fait après c'est vrai que c'est des méthodes qui font leur preuve très vite sur un jardin et c'est une petite chose à dire, je pense à ça parce que un jardin bio on n'a pas tout de suite et c'est vrai que quand on commence à travailler un jardin et si on veut le faire en bio on n'a pas des enfin en bio en essayant on n'a pas forcément un beau jardin tout de suite parce qu'il faut le temps que la terre se fasse. Donc soyez persévérants, ça va venir.
Il faut cultiver le lambric, hein, c'est ça.
C'est ça.
Alors, on enchaîne avec quoi alors pour faire le tour de Kerguelen, si c'est possible en une heure et demie de faire le tour.
On enchaîne avec quoi? Bonne question.
Alors, bon, moi, je sais que c'est dommage de pas... Tu as dit que tu chantais beaucoup dans la rue à un moment donné.
Oui.
Moi, c'est vrai que je trouve dommage qu'il n'y ait pas des concerts de Kerguelen dans les salles. Parce que c'est quand même différent d'avoir une salle de concert où les gens viennent rien que pour toi.
Oui, tout à fait.
Et puissent déguster les mots et la musique...
Mais oui, mais tout ça, ça va finir. C'est vrai que là, je suis plus dans une réflexion de mon projet professionnel au niveau de l'éducatif. Et une fois que je serai un peu en place là-dessus, j'aurai plus la tête et le loisir d'essayer de défendre mes chansons en prenant contact avec des lieux pour ça. Voilà, pour l'instant, voilà, je ne sais même pas si je vais rester vraiment dans les parages. Je vais voir comment les choses vont se boutiquer. Et une fois vraiment que je saurai sur quel territoire je vais agir, voilà, je prendrai le temps de faire un peu plus de musique que je ne fais en ce moment. Voilà.
qu'est-ce que tu as préparé? Je vois que tu as devant toi un texte.
Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai. Comment dire? J'ai quelques écrits, quelques nouvelles aussi.
Oui.
Et c'est vrai que j'en ai ressorti une où je me suis dit, je l'ai un peu changé. Enfin, j'ai raccourci des choses en me disant que ça pourrait faire une bonne introduction pour une de mes chansons. Et alors voilà, je sais pas, plutôt que lire un poème, pourquoi pas lire un passage d'une nouvelle qui est peut-être un peu poétique comme nouvelle, mais...
Alors on y va.
Allez. Son verre fini, il esquisse quelques pas de danse vers la sortie. Dehors, il respire à plein poumon les effluves d'essence, d'égout, de fruits blais, de parfums bon marché, de sueur, d'éther, de merde canine, de gazon grillé, de tôle humide, de frites grasses, de suie et d'albumine. Face aux murs, aux ruelles froides et aux portes blindées, il sent sa tête durcir. Dans son cerveau brille une nouvelle quête. Agatha. Le froid lui fouette le visage, et la nuit qui l'enveloppe ne protège pas de son bandeau d'étoiles, ni des gifles, ni des morsures du gel. Mais quel que soit le temps, c'est toujours le nez en l'air et la semelle foulant au hasard des trottoirs que l'on fait des promesses au soleil naissant et aux astres nomades. Agatha, je me surprends à me demander où tu es, alors que je ne sais pas où je suis. Agatha. Budapest, Tizi Ouzou, Tel Aviv, Tashkent, Pyongyang, Caracas, et le soulier percé, et la crasse sous les ongles, et la poussière dans l'œil, et l'horizon dans les tripes. Agatha, parfum enfoui dans les tréfonds de l'être et les bas-fonds des quêtes, ombre planant sur les rondeurs déchiquetées du globe, ventre chaud, corps abri dans les nuits fraîches des berges d'Aïlée. Agatha, il ne reste de toi qu'un souvenir enfoui dans la vase des sentiments, l'écho d'un rire dans les vallées du bonheur, le tressaillement des corps sur les berges de la tendresse, et pour seule preuve tangible des aspirations entremêlées, une vieille lettre alourdissant la besace de ton amant qui ne t'est jamais parvenue. Agatha. Tu étais mouvement et je vivais parmi les voyageurs immobiles, parmi ceux qui refont le monde de leurs espoirs périssables et ne trouvent refuge et fraîcheur que dans le sourire de leurs enfants. Tu étais mouvement, toujours en quête d'une couleur vive, qui guérait tes noires pensées et tes désirs obscurs, mais quelle autre lumière que la tienne n'ai-je jamais cherchée? La frontière est invisible à nos yeux. J'ai quitté la cage où résonnait le monde en fumée avec ses pulsions sanguines, son foutre intellectualisé et ses diarrhées d'espoir pour fuir un pays qui m'a vu naître et grandir comme une souche exilée. Je voulais te ramener du bleu de Véronette et du lapis-lazulis d'Afghanistan. Le vent d'Orient était si chargé d'épices. À Port-Hélène, quand je suis revenu à toi, l'incertitude m'a pris la gorge avec conviction. Je n'avais plus dans les poches que quelques grès ferreux émiettés, et le seul bleu que je traînais sur moi était le souvenir des taches turquoises qui parsemaient ton regard. À Port-Hélène, je t'attends, Agatha. Ici, la côte est si calme que la marée semble morte et que plus rien ne pousse au large. Parfois, je monte près du lac du Bain, et les courants chauds forment des zones sombres, là où ondule la platitude du jeune remous. Tout est calme et semble dormir dans la brume qui se forme à la surface. Et derrière le voile se dégage une petite île, ronde et ferme comme un sein. Ton île, là où il reste agrippé tout naufragé, y poser une main faible, s'accrochant la vie avec voracité, mais également la tendresse d'un désespoir s'acheminant. Ton île. Alors je plonge dans le lac. J'aime cette couleur noire que la lumière agace. J'aime la pluie qui y chute d'un ciel clair. Mais ton île est loin, sauvage, inaccessible, et le silence m'angoisse dans mes brasses de granit. Alors je fais demi-tour, du sable dans les chaussures pour ne pas qu'il me glisse entre les doigts, rentrant vers un chez-moi qui n'existe pas. Ailleurs, je te rejoindrai, mais tu n'y étais pas. Ni en terre de feu, ni sur les berges de l'amour, ni dans l'océan naissant de l'Éthiopie, ni dans les palais de Samarcande. Et pourtant, Agatha, ma source, de part et d'autre de la rose des vents, j'ai remonté les fleuves et leurs rivières, j'ai longé les torrents, et t'ai rêvé dans leur lit. Mais non, tu n'y étais pas. Je ne t'ai pas trouvé, mais je comprends pourquoi. Agatha, ma source, sur son matelas de roche dure et désordonnée, l'eau ne se repose jamais, comme toi. Elle ne peut être que mouvement, fluide, l'éternelle voyageuse. La mer a emporté le message. Le vent en a soulevé l'écho et la terre a fait germer. Là où le lierre agrippait les élans, un tapis de myosotis où émanent les senteurs humides de la mélancolie. Ce soir, la frontière devient visible sous le rayon intermittent d'un phare et elle se dévoile selon la cadence d'une trotteuse qui cisaille le crépuscule de secondes minutieuses. Le ciel se teint de lumières éperdues et la frontière se noie d'une couleur froide. La nuit s'ensuit et l'aiguille assombrit en y joignant le rythme glacial de la mécanique. Le nord s'y mêle, avec un vent levant la poussière sans y déplacer les terres. La frontière garde sa stature volumineuse de herse protectrice et elle protège entre deux mondes, une terre fertile que son acier enchaste. Silence. Alors, le temps se floue dans la brume éparse, dont la lourdeur écrase le monde jonglant entre la mortification et l'attente présagée d'un bouleversement. Et comme pour rappeler que sur les frontières aussi le jour se lève, les clochers de lointains villages inscrivent de leur timbre monotone les heures qui se figent aussi rapidement qu'elles furent exhibées.
Vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3 et nous avons le plaisir d'avoir Ker Guillaume, auteur, compositeur, interprète, poète, et qui vient de nous lire une nouvelle, Agatha.
Un extrait. De la nouvelle Agatha.
Un bon moment, je suis vraiment très heureuse que tu sois venue sur Fréquence Mistral pour nous faire partager toute cette poésie. Je te propose d'écouter, si tu veux bien, un disque que tu vas nous faire découvrir. Raymond Gary.
Oui, Raymond Gary.
On l'écoute.
On est avec grand plaisir.
Et puis après, tu nous en parles.
Okay.
On n'a pas été fou la fin, ni truand, ni même aigre fin, et on n'a pas passé tricard notre enfance dans un placard. On entend, on parle et on voit, on n'a pas une main qu'on n'a pas, on va pas crever dans l'hiver, on n'a pas un squelette en verre, ni récupérer chez maman un chromosome en supplément. Eh ben, tu vois, malgré tout ça, même pas foutu d'être heureux tous les deux, y a des coups de pied au cœur qui se perdent. Merde. On va pas mourir du sida, on n'est jamais mort au Rwanda, non plus étouffé à Bhopal par le nuage cannibale. On n'a pas attrapé la guerre, ni connu les abris naguère, pas perdu famille et amis d'un seul jet dans un tsunami, pas bouffé de rayon gamma, mon amour à Hiroshima. Eh ben, tu vois, malgré tout ça, même pas foutu d'être heureux tous les deux, y a des coups de pied au cœur qui se perdent. Merde. On n'a pas fini SDF dans un entrepôt d'AZF, ni enterré sous le limon dans les boyaux de Douaumont. On n'a jamais eu à se rendre, on n'a jamais eu à se pendre, on n'a jamais dû vendre un rein ou un œil contre trois fois rien, ni contre deux sous échanger un enfant pour pouvoir manger. Eh ben tu vois, malgré tout ça, même pas foutu d'être heureux tous les deux. Y a des coups de pied au cœur qui se perdent. Merde. Les jours se suivent et se rassemblent, et voilà qu'on vieillit ensemble. Bien sûr on a quelques misères, des catastrophes ordinaires. Un voisin qui part avant nous, des instants que l'angoisse noue, les petits coups de pied en vache que le temps rumine et remâche, qui font mal mais sont peu de choses quand tout autour la terre explose. Alors tu vois, avec tout ça, faut s'obstiner à être heureux plus nombreux. Il y a des coups de pied au cœur qui se perdent.
Voilà, donc merci pour ce choix de chanson, Rémo Gary.
Oui, merci Rémo.
C'est une chanson qui s'appelle « Des coups de pied au cœur ».
Oui.
Et c'est tiré de l'album « Même pas foutu d'être heureux ».
Même pas foutu d'être heureux, c'est un album qui est magnifique. En plus, il est illustré par Tardi. Mm-hmm. C'était les disques de Rémo Gary, ce sont des livres, hein, quand on les ouvre, c'est des véritables livres. Et... ce qu'il y a d'intéressant en plus dans cet album, c'est qu'il y a un deuxième CD avec une vingtaine de chansons qui sont en vérité des poèmes de Jean Richepin qui ont été mis en musique et qu'il chante. Parce que c'est un grand amoureux de la poésie de Jean Richepin et il y a de quoi.
Il y a de quoi. Donc ben voilà, encore un cadeau, une idée de cadeau pour Noël, Rémo Gary. Même pas foutu d'être heureux.
Même pas foutu d'être heureux.
Par exemple, en attendant que toi, tu aies sorti ton propre CD.
Oui, parce que c'est vrai
pour patienter.
La maquette n'est pas encore présentable. Ça viendra.
Le temps passe vite, il est déjà 17h43. On continue, il nous reste encore un quart d'heure pour mieux faire connaissance. Est-ce que tu veux qu'on écoute une autre chanson de toi ?
Bien, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Et laquelle aimerais-tu faire connaître à nos auditeurs ?
On pourrait mettre un peu. Une chanson légère.
C'est laquelle ?
Une première chanson légère, Les Bas.
Les Bas.
Ouais, c'est...
Eh bien, on va voir de quoi ça parle. Les Bas. Les Bas nylon ou les...
Pas que cela.
Pas que cela. Allez, on écoute tout de suite. C'est Kerguilhom qui chante Les Bas.
Les bas nylon qui courent le long des trottoirs me rendent fou, traversant les clous de ma ville d'avotoir. Mais les collants, dans leur dénuement ostentatoire, me font grincer des dents. Moi, je veux voir des bas blancs, que les jarretelles se ramassent à la pelle. Pourtant, dis-moi que de bas en haut, mes yeux se posent sur le haut de vos bas quand vous croisez les jambes. Qu'à tendre les bras, et dans mes draps le soir, je rêve à des éclats, oh, de bas noirs. Que les
pas de laine qui traverse l'Ofoten avec leur goût salé. Ils s'en viennent jusqu'à Vienne et qu'à Paris se promènent sur l'air pavé, car les bords de Seine ont bien trop de veine d'être admirés, et que la tour Eiffel s'en vienne à envier vos bas en dentelle. Sur chaque galbe claqué se palabre les élastiques qu'on entrevoit la peau, car sans un morceau je suis neurasthénique, et si sous la soutane me voilà profane d'un ecclésiastique, j'en irai prier la croix pour un tissu asiatique s'il y a des bas de soie. Que chez les musulmans le voile maintenant, ouais, soit frivole, qu'ils ne cachent plus leur nez, mais descendent mystifiés leur guibole, que sur la banquise, autour des îles Marquises, l'Altaï mongole, si l'on y croise une fille, oh, quand ça folle de ses barésies. Oui, mais pour les sushis, je n'ai plus d'éthique, plus de morale sur vos jambes si belles. À la moindre échelle, je m'emballe et j'y grimperai bien jusqu'à vos bassins, là où je défaille. Gardez vos basses, vous plaît, qui si bien vous saillent pour batifoler.
Eh bien voilà, une belle histoire sur les bas de Ker Guillaume. Alors, on a parlé poésie, chanson, et le théâtre est quelque chose aussi qui te passionne depuis toujours, et tu en as fait beaucoup, tu as animé.
Oui.
Tu as même joué des pièces de toi sans les avoir écrites.
C'est ça,
c'est incroyable ça.
Oui, peut-être, mais c'est vrai que c'était pour moi le théâtre à ce moment-là, c'était comme écrire un poème, que c'était vif. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de rencontrer des gens dans un café et de leur proposer en deux-deux de dire bah tiens, est-ce que ça vous intéresse que pendant ce mois-ci on se voit et on monte un truc et on se le joue où on peut. Et c'est des aventures extraordinaires. Et effectivement, c'est des expériences qui n'ont pas de traces, si ce n'est que dans la mémoire. Et au niveau des lieux, par exemple, des lieux que j'ai adorés, c'est les squats. Il y a dans toutes les villes des lieux abandonnés. Mm-hmm. Et pourquoi pas les faire vivre.
Donc ouais, tu en ferais des, tu en as fait?
Oui, des pièces. Du coup, tout ce genre de façon de créer des spectacles avec des gens comme ça au hasard, des disponibilités et des envies, voilà, se sont faites comme ça et souvent dans ces lieux-là. Ouais. Voilà, c'était une démarche furtive. Furtive, en fait, c'est le mot pour et éphémère, plutôt éphémère. Enfin, l'art est éphémère, en gros, pour moi, et je l'ai vécu comme ça pendant plusieurs années. C'était un échange, une énergie éphémère qui s'en transformait en une autre par la suite et qui redonnait quelque chose d'éphémère.
Donc, depuis que tu es dans la région, tu fais pratiquement plus de théâtre. Hein. Ça fait pas longtemps que tu es par ici. Je pensais au Sisteron, mais en fait, c'est à Saint-Jure.
C'est à Saint-Jure. Je suis dans le Verdon. Non, je suis arrivé dans la région en janvier dernier. Et je suis arrivé à Manosque pour travailler pour l'association Théâtre Le Lila, une association de théâtre, où aussi pendant 6 mois j'ai pu animer des ateliers théâtre. Donc voilà, si le théâtre toujours, mais c'était plus dans l'idée de le faire partager. C'est toute une autre démarche d'utiliser le théâtre en support éducatif et de faire des spectacles avec des enfants que de soi-même faire son spectacle et cracher ses mots.
Et une envie d'écrire maintenant une pièce, ce serait ce serait encore... Il y a déjà pas beaucoup de place pour la chanson, mais...
Non, ça me plairait énormément. Après, voilà, ce que je disais tout à l'heure, je suis dans d'autres démarches là. Je pense qu'une fois que je serais bien posé, moi, mes démarches aujourd'hui, c'est d'arriver à me poser, puisque avant de faire tout ça, j'ai envie d'avoir une démarche auprès de l'éducation populaire plus directement. Et puis à côté de ça, je serais content de faire un petit peu de musique et du théâtre aussi. C'est vrai que j'ai eu l'idée, justement, quand j'étais à Manosque, là, de pourquoi pas essayer de... J'ai commencé à griffonner sur des papiers que j'essaye de ne pas laisser volants, cette fois-ci. des idées pour un spectacle que j'espère aérien. Donc, j'ai pris contact avec des troupes de cirque aussi, pour ce genre de projet, où ce serait plutôt un spectacle de théâtre... Hors sol,
qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire sur un mur,
ouais.
ou élevé. En fait, je entre autres passions que tout ce qui est culturel, j'adore aller sous terre. J'adore me cacher, en vérité, et j'adore aller sous terre à visiter les antres humide du globe. Et je suis passionné par la spéléo et ça demande énormément de techniques de cordage. Uh-huh. Et je me dis que ça peut être utilisable dans le spectacle. Voilà. Pour justement permettre de jouer pendu.
Pendu.
C'est ça.
Mais pas sous terre quand même. Tu ne vas pas nous organiser quelque chose sous terre où il faudrait aller pour te voir.
C'est intéressant. Et puis ça se développe. Il y a des concerts qui se font dans des cavités. Ça se développe. Bon, c'est pas l'objectif, non.
Donc, une autre passion, l'aspect Léo.
Ouais.
D'accord. Oui. L'aspect Léo, la poésie.
C'est drôle, puisque, en fait, je crois que je suis arrivé à... Ce que j'aime dans l'aspect Léo, c'est que j'en vis les mêmes choses que ce que je peux voir quand je fais du théâtre, surtout. Et quand je fais un peu de scène, que ce soit sur une scène ou que ce soit sur un trottoir. Mais c'est la même peur. D'une part, c'est un milieu inconnu, noir, comme une salle de spectacle. C'est une façon d'appréhender son corps dans un espace. C'est drôle, puisque pendant longtemps, le théâtre, moi, je me suis amusé à sortir de la scène. Je trouve ça intéressant aussi de sortir de la scène, aller dans le public, faire jaillir un personnage, une voix.
C'est moins dangereux que dans,
voilà, c'est moins dangereux.
Dans une cavité.
Et puis, un jour, je me suis rendu compte que le théâtre aussi, ça pouvait être sur une grande scène et dans une bassine au milieu de cette scène et ne pas bouger de la bassine, par exemple. Tout dépend de l'appréhension qu'on a de l'espace. Et je retrouve ça dans la spéléologie, la façon de placer son corps dans une galerie, que ce soit un passage étroit, que ce soit une grande galerie ou que ce soit un puits, un décembre. C'est une appréhension de l'espace que je retrouve, en fait. Voilà.
Quelles sont les compétences, les qualités qu'il faut pour être un bon spéléologue?
Écouter sa fatigue.
Ouais.
C'est toute la première chose. Après, c'est donc il y a un regard de l'espace, hein, sur l'espace que je disais au niveau de son déplacement. Il y a une façon de gérer ses mouvements, du coup, puisque c'est un milieu où on dépense énormément d'énergie, puisque c'est très humide et c'est froid, et donc le corps dépense beaucoup d'énergie. Et tous ces mouvements, toutes ces actions, elles doivent savoir être pesées et mesurées. En gros, c'est ça. Puis après, il faut une organisation, puisque c'est pas une activité sans risque. Donc, il faut aussi toute une organisation préalable, préparer son matériel, savoir le gérer sous terre. Après, c'est beaucoup de techniques de cordage, puisque si quelqu'un est en difficulté, il faut pouvoir le remonter d'une verticale.
Il faut pas être claustrophobe, ça, c'est sûr. Parce que vous êtes quand même... on est amené à être dans des endroits très, très, très étroits. Et est-ce que ça demande d'être... très mince, de suivre un régime végétarien.
Non, pas du tout, puisque on peut écraser
souple.
Son ventre et on peut écraser ses fesses pour passer. Alors des fois c'est difficile, il y a des passages qu'on appelle en expiration, c'est-à-dire qu'il faut enlever tout l'air qu'on a dans les poumons, sinon la cage thoracique elle passe pas.
Mon Dieu.
Mais c'est très rare, et puis après ouais. Il faut oser. Mais c'est une mauvaise idée en fait de se dire que c'est petit sous terre. C'est très très grand, c'est énorme, et je trouve plus impressionnant d'être dans une grande galerie où avec les lumières qu'on a, on ne voit ni le mur de droite, ni le mur de gauche, ni le plafond.
Donc c'est très sombre, c'est très humide. Est-ce qu'il y a... On a du mal à respirer?
Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout?
Pas du tout. C'est,
L'exemple de dire des fois il faut se vider de l'air pour pouvoir passer, c'est quand même pas très rassurant.
Non mais ça c'était un exemple extrême.
Ce que
je veux dire c'est que c'est une mauvaise idée de se dire que c'est petit sous terre, c'est très grand. Ce que je dis pas de bêtises, mais la salle de France la plus grande c'est la Verna, hein, à le Pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées, et dans cette salle-là, si je dis pas de bêtises, c'est 12 fois qu'on pourrait mettre à la cathédrale Notre-Dame. Douze cathédrales Notre-Dame dans cette salle pour remplir le volume.
Au niveau animalier, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre des bestioles dans...
Oui, on rencontre des bestioles, on rencontre...
Il y a de la place pour deux.
Oui, il y a quelques... Il y a quelques insectes... Donc, on peut en trouver par ici, ouais, des insectes qui sont vraiment trop globiques, qui vivent vraiment sous terre, qui sont dépigmentés, aveugles. Après, le grand image, c'est le protrait qu'on trouve plutôt en Slovénie, qui est une petite salamandre qui vit sous terre, ouais, et qui effectivement est dépigmentée, n'a pas d'yeux.
Est-ce qu'il y a des lois très précises sur la spéléo? Est-ce qu'il faut être diplômé pour pouvoir s'aventurer seul ou jamais seul, au moins à deux?
Ben, c'est comme pour tout, c'est toujours mieux d'être à deux. Après, c'est intéressant. J'adore descendre seul aussi sur Terre. C'est une autre approche.
Il y a des galeries qui sont connues. Comment ça se passe?
Ah oui, il y a des cavités qui sont très très connues. Après, dans le milieu de la spéléologie, il y a des cavités qui sont très 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 réputées et très 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 visitées. En revanche, la documentation est difficile à trouver. C'est-à-dire qu'on entre Il vaut mieux être affilié à un club pour pouvoir avoir de la documentation. Ensuite, il y a des réglementations qui peuvent exister vis-à-vis des communes, puisque il y a beaucoup de communes qui ferment aussi des cavités pour éviter les accidents. Et puis savoir s'il n'y a pas un arrêté écologique sur le territoire aussi.
Merci, Ker Guillaume. Il est déjà 58. Il nous reste plus que deux petites minutes. Peut-être juste le temps de donner le site, enfin, où c'est pas un site, c'est myspace.com, Ker Guillaume, pour vous écouter sur 4-5 chansons, je crois, hein, qu'il y a de disponibles dessus.
Oui, c'est ça, oui.
L'émission de ce soir sera en ligne très bientôt sur le site Fréquence Mistral, dans Passionnément Vôtre. Et puis voilà, un petit mot pour terminer.
Merci beaucoup, Odile, de m'avoir invité.
Eh bien, de rien. Tout plaisir était pour moi et pour nos auditeurs, j'en suis sûre. On va juste mettre, ça va être très court, mais un petit morceau, le début de Anne Sylvestre, J'aime les gens qui doutent, pour se quitter. Merci, au revoir.
Au revoir.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple.